Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être avec nous, content de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse, hein, la radio qu'on écoute de Toulouse jusqu'au pied des Pyrénées. Et nous allons parler santé, nous allons parler bien vivre avec Alexia Autenac. Alexia, bonjour.
Bonjour Bruno.
Vous êtes une naturopathe. Qu'est-ce qu'une naturopathe ?
Alors une naturopathe, c'est déjà quelqu'un qui vous veut du bien, si ça peut vous rassurer. Donc c'est quelqu'un qui a appris à prévenir les problèmes de santé en aidant les personnes à se remettre dans le droit chemin, je dirais, sur leur hygiène de vie. Cette personne qui est le naturopathe va les aider à revoir l'alimentation, par exemple, à gérer leur stress, à retrouver du bon sens, tout simplement, avec des choses que nos anciens, j'ai envie de dire, savaient déjà. Et qui nous ont été peut-être un petit peu déconnectés ces dernières décennies. Donc le naturopathe, au travers d'une boîte à outils bien fournie, puisqu'on a 10 techniques de santé naturelle avec nous, va pouvoir accompagner son consultant vers un mieux-être.
Si je résume à ma façon, naturopathe, c'est de la santé naturelle.
Exactement, c'est de la santé naturelle, et ce n'est pas d'hier, puisque le premier naturopathe, vous savez qui c'était ?
Ben non.
Eh ben, c'était Hippocrate, et c'était déjà 400 ans avant Jésus-Christ. Hippocrate avait déjà tout compris, hein, puisque lui disait que ton aliment soit ta première médecine, par exemple. Il disait une autre vérité, c'est que tout commence dans les intestins, et il est vrai que beaucoup, beaucoup de problèmes de santé viennent de la digestion, entre autres.
Donc, naturopathe, c'est du remède de grand-mère ?
En quelque sorte, mais pas que. Là, si on dit que c'est du remède de grand-mère, on fait quelque part du symptomatique, entre guillemets. Donc, par exemple, beaucoup de personnes connaissent la technique avec l'huile essentielle de menthe poivrée lorsqu'on a un mal de tête, par exemple. Mais c'est pas ça, la naturopathie. La naturopathie, elle va aller plus loin, en fait, parce qu'elle va chercher à savoir de quel bois vous êtes fait. Pourquoi vous avez mal à la tête, en fait. Et elle va aller chercher la cause de la cause, même si on veut, et elle va vous aider justement à rétablir votre terrain, votre santé, en évitant par exemple peut-être de surcharger votre foie qui pourrait donc amener peut-être des maux de tête.
Vous avez utilisé un mot qu'on entend souvent dans la bouche du naturopathe, c'est le mot terrain. Qu'est-ce que c'est ?
Alors le terrain, effectivement, c'est un vrai concept en naturopathie, c'est un concept à part entière. Alors moi, je prends l'analogie d'une plante en pot pour expliquer cela à mes clients. Le terrain, c'est tout simplement la terre, hein, dans laquelle la plante est rempotée. C'est-à-dire que si on a un terreau qui est de bonne qualité, qui est fertile, qui est bien arrosé, ben, la plante va être super jolie, elle va s'épanouir. Et en fait, le terrain chez l'individu, c'est exactement la même chose. On va travailler justement à ce terrain ben, pour que vous soyez une belle plante épanouie, Bruno, et que vous avanciez dans l'âge tout à fait sereinement et en excellente santé.
Merci. Mais il y a différents terreaux pour différentes plantes.
Exactement. Nous ne sommes pas tous faits du même bois, effectivement. Ce qui vous convient à vous, sur le plan peut-être alimentaire, n'est pas forcément ce qui va me convenir. Nous n'aurons probablement pas la même gestion du stress aussi. Et toute la mission et tout l'art du naturopathe va être par un questionnement juste et précis, parfois long, hein, parce que les consultations peuvent être d'une heure et demie. Eh bien, l'art de ce questionnement va permettre de cerner de quel bois vous êtes fait, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous mettez dans la machine aussi pour qu'elle fonctionne.
Vous avez parlé tout à l'heure d'Hippocrate. Hippocrate, c'est l'origine de la naturopathie, mais ça a évolué comment ? Parce que j'imagine qu'il s'est passé plein de choses depuis Hippocrate.
Oui, il s'est passé plein de choses, en effet. Dans les années, on va dire, 50, aux États-Unis, un premier courant qui va justement revenir au bon sens. Et puis, pour parler plutôt de la France, hein, parce qu'on est, français, c'est ce qui nous intéresse aussi, on a Pierre-Valentin Marchesseau qui va quelque part codifier la naturopathie et rassembler tout ce qui est au niveau de la boîte à outils et qui va aussi vraiment, je dirais, conceptualiser la naturopathie en parlant de terrain, de notions d'encrassage. Et ensuite, on a des fers de lance qui le suivront, bien entendu, et jusqu'à aujourd'hui. Mais on va dire que c'est vraiment Pierre-Valentin Marchesseau qui a placer la première pierre de l'édifice en France.
Alors, cette pierre se base sur quoi ? On a parlé de terrain, Là, vous parlez d'hygiène de vie, ça correspond à quoi ?
Alors en fait, le credo, la pierre fondatrice, c'est de se dire qu'en fonction de ce que l'on met dans son assiette, en fonction de comment on va dormir, de comment on va bouger, comment on va s'hydrater, et bien sûr, j'allais oublier le principal, gérer son stress, eh bien, on va avoir un état de santé qui va en découler. Et en faisant attention à tous ces piliers en fait, de la santé, eh bien, on peut prévenir la pathologie qui va arriver, ou on peut aussi revenir dans des meilleures dispositions pour avoir une meilleure hygiène de vie au global. Même si on a déjà une pathologie, on peut toujours améliorer son hygiène de vie pour améliorer ce fameux terrain.
C'est ce terrain qui crée en fait notre force intérieure, cette immunité dont on parle. Et ces quatre piliers, donc le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress et le quatrième, j'ai oublié.
L'exercice physique. Je rajouterai un cinquième avec l'hydratation, avec l'eau.
L'hydratation,
oui.
C'est ce qui nous permet de maintenir une immunité face aux agressions extérieures pathogènes qui font qu'on a une dégradation de notre condition physique.
Exactement. En fait, grâce à ces cinq piliers, qui sont encore une fois finalement des choses provenant du bon sens, eh bien, on va prévenir et on va vraiment permettre au corps de se régénérer, j'ai envie de dire, et de stimuler son potentiel. On parle de force vitale en naturopathie. Et d'ailleurs, quand les personnes viennent dans notre cabinet, on fait un bilan de vitalité. Donc, c'est ça qu'on va évaluer. C'est véritablement la force vitale. Quel est le curseur aujourd'hui de votre force vitale en fonction de ces cinq piliers ?
Ces cinq piliers dont vous parlez, ils sont fortement sollicités, voire dégradés aujourd'hui par une alimentation souvent industrielle, par des eaux qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, par un stress dominant, par une qualité de sommeil qui peut être perturbée par les bruits environnants.
Alors il faut faire, comme je dis souvent, au moins pire, parce que effectivement, la vie que l'on nous propose et que l'on a mis en place, hein, nous, êtres humains et nous, Français, ben, en 2024, ainsi va la vie, elle est un petit peu à contresens finalement de ce qu'on devrait faire. Et c'est quelque part aussi une prise de conscience que d'avoir cela en tête et de rectifier notre hygiène de vie. Donc par exemple, effectivement, déjà au niveau des légumes, si on est dans le bon sens, on va consommer local pour avoir un maximum de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments parce qu'on a des fruits et légumes qui sont cueillis à maturité, qui n'ont pas fait des dizaines de milliers de kilomètres autour de la planète pour arriver dans notre assiette, ce sera super. Alors après, je vous vois arriver avec la question du bio et du non-bio, pourquoi pas ? Mais déjà, si on fait local, ce sera déjà énorme. Donc faire un vrai choix, composer son assiette aussi, est-ce qu'on a bien des légumes à chaque repas, par exemple ? Donc il y a tout un tas de choses qui vont faire qu'on va pouvoir optimiser. Voilà, malgré la malbouffe, malgré le stress, etc. Mais il faut absolument avoir une prise de conscience avec cela parce que sinon, ben, on peut se laisser tout simplement amener dans cette espèce d'engrenage et puis ben, on se laisse peut-être dominer, guider par le plaisir. Ça ne veut pas dire que voilà, je suis naturopathe, je n'ai pas de plaisir à table, pas du tout. Je fais attention, j'ai conscience de ce que j'ai dans mon assiette, j'ai conscience des quantités, j'ai conscience du moment auquel je mange. Je ne mange pas devant la télé, devant mes mails, etc. Comme ça, par exemple, je suis connectée à ma satiété. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, mais ça commence vraiment par la prise de conscience, en fait.
Prise de conscience pour, comme vous le disiez tout à l'heure, aller au moins pire, essayer d'améliorer les choses petit à petit.
Exactement. On peut aller vers du mieux, tout le monde peut aller vers du mieux, et il faut faire les changements de façon progressive pour que ce soit durable. Si vous venez au cabinet et je vous fais une liste de 50 choses et je vous dis voilà, bon ben ça Bruno, ça va pas du tout, il faut faire ça, 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 maintenant c'est plus comme ça, c'est comme si. Bon ben, même avec la meilleure volonté, avec un caractère de battant, vous allez faire ce que vous pouvez, mais 50 c'est énorme. Vous n'allez pas transformer dans le temps, ça va pas être durable. Donc il faut petit à petit faire ben, la théorie des petits pas, voilà, un petit pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, je prends la décision de n'acheter que des légumes locaux. Et peut-être que demain, je mangerai que des féculents complets, etc., etc. Et chaque petit pas franchi est acquis et durable. Il faut aussi savoir être gentil, j'ai envie de dire, et bienveillant avec soi-même, et se laisser le temps de changer. Oui, on va aller vers un mieux-être, mais tranquille.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, chaque personne réagit différemment à ces cinq piliers. Comment vous êtes capable, vous, d'analyser le comportement ou la réaction de chacune de ces personnes?
Alors, on fait un état des lieux lors de la première consultation en général. C'est pour ça qu'elle est longue. Parce que justement, on va aller enquêter sur chaque pilier à notre façon. Et on va voir la marge de progression qui va être possible, en fait. Cette enquête, elle est minutieuse. Elle demande aussi de la sincérité, de l'honnêteté hein, de la part de la personne. Et pour cela, il faut qu'elle se sente en confiance. Chez le naturopathe, il n'y a pas de jugement. On est là vraiment absolument pour aider. Une fois que l'on a cet état des lieux, il faut aussi avoir un petit peu d'intuition et de sens. C'est-à-dire que quand la personne est au cabinet, est-ce que c'est quelqu'un qui a un caractère justement à qui je vais pouvoir demander de mettre les choses en place rapidement? Peut-être que c'est quelqu'un qui, son environnement de vie fait que ça ne va pas être facile. Peut-être qu'il y a un mari, des enfants et que pour changer les repas, il faudra trouver des idées et des paliers. Donc, il faut vraiment comprendre et se connecter quelque part avec la personne pour ne pas rester dans sa tour d'ivoire de naturopathe et de puriste et de dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, mais vraiment s'adapter à la personne. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper important l'entretien, parce que ça va permettre de voir l'hygiène de vie qui, encore une fois, d'une personne à une autre, n'est pas la même. La façon de gérer le stress, comment on va dormir, tout ça en fait. Et donc, ça passe au travers de... Alors, j'aime pas dire questionnaire. Simplement, c'est là aussi qu'est l'art du questionnement chez le naturopathe, c'est de poser une certaine quantité de questions avec bienveillance, savoir écouter les réponses qui sont parfois pas faciles, qui peuvent aussi émouvoir. Donc, on accueille l'émotion dans nos cabinets. Et on l'accompagne, bien entendu. Donc, tout est autour de cette écoute bienveillante, en fait.
Donc, écoute bienveillante, c'est plus, je dirais, une approche psychologique qu'une approche médicale.
Alors, nous ne sommes ni psychologues ni médecins. Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Donc, je me permets d'appuyer là-dessus parce que le naturopathe, par exemple, ne va en aucun cas se substituer au médecin pour aller changer des posologies de médicaments ou les arrêter ou conseiller sur ce terrain-là, jamais de la vie. Il n'est pas psychologue. Par contre, il est formé à l'écoute active, à l'écoute empathique. C'est aussi le naturopathe, quelqu'un qui a des prédispositions naturelles à cette écoute et à l'empathie. À l'empathie, mais sans se laisser embarquer non plus avec nos clients, parce qu'on n'est pas là pour pleurer sur leur épaule, hein, donc on est plutôt là pour les écouter et les accompagner. Donc c'est là que le naturopathe intervient véritablement et qu'il va pouvoir accompagner et avec ses propres outils.
Alors, comment devient-on naturopathe ?
Alors, on devient naturopathe, j'ai presque envie de dire par passion. Il faut d'abord aimer les gens, être bien sûr en affinité avec les techniques naturelles, avoir envie d'aider. Et puis ensuite, naturopathe, c'est un métier qui, en France, n'est pas légiféré, à ce jour en tout cas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cursus qui soit prédéfini pour devenir naturopathe. Alors aujourd'hui, c'est finalement un petit peu ça quand même le problème, là où le bât blesse, je dirais, c'est que les cursus de naturopathie dans les écoles sont complètement différents. Donc vous pouvez avoir une formation sur Groupon à 90 euros et hop, vous sortez naturopathe. Et puis, à côté de ça, vous avez des écoles qui vont vous proposer 800, 1000, 1200, 1500 heures d'apprentissage. Et où là, effectivement, on a quelque chose de solide. On ne peut pas recevoir quelqu'un en consultation sans savoir comment le corps humain fonctionne, sans avoir certaines connaissances. Ce n'est pas possible.
Ça, il faut une formation sérieuse, quoi.
Oui, il faut vraiment une formation sérieuse.
Comment je choisis mon naturopathe, alors ?
Alors, comment je choisis mon naturopathe ? Déjà, je vous conseille, Bruno, de regarder s'il a une existence juridique. A-t-il un CIREN ? Est-il déclaré ? Très simplement. Donc ça, déjà, ça donne aussi un engagement de la part du professionnel. Quelqu'un qui a créé sa société, qui exerce avec un statut. Il peut être aussi salarié d'une structure, hein, why not ? Mais en tout cas, il faut voir l'engagement de cette personne. Ça, c'est très important. Ensuite, moi, je vous conseille d'aller voir un petit peu, comme on fait tous les jours, hein, sur Internet, voir ce qui se dit. Quelle est sa vitrine, finalement ? Quelle est son existence numérique ? Puisque, bon, à l'heure d'aujourd'hui, on peut difficilement faire autrement. Il faut aller voir du côté digital ce qui se passe. Quelle est la vitrine de cette personne ? Est-ce que, elle a peut-être juste une page sur les réseaux ? Mais c'est OK, pourquoi pas ? Il faut voir le contenu, si c'est sérieux. Est-ce qu'elle a un site Internet ? Il y a quoi sur ce site ? Est-ce que les propos sont clairs ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'ambiguïté de, justement, la médecine, la pharmacie ? Ça, il faut que ce soit très, très clair. Naturopathe qui est un peu entre deux eaux, on évite. Et ensuite, bien sûr, eh bien, on pourra aller voir les avis sur différentes plateformes, voir un petit peu ce qui se dit sur cette personne. Ça, c'est important. Après, il se peut aussi que malgré cette enquête-là, voilà, c'est quelqu'un qui a une existence juridique, le site a l'air sérieux, les avis sont bons, et puis vous débarquez dans son cabinet et ça ne le fait pas. Ben oui, ben ça peut ne pas le faire. Évidemment, c'est une question de personne, comme je vous disais. Et ça, c'est super important que le consultant s'écoute, parce que c'est une vraie relation de confiance qui va se nouer entre le naturopathe et le consultant. Et un suivi aussi, parce qu'on va accompagner les gens et on va vraiment les aider dans cette espèce de transformation, j'ai envie de dire. Et puis, il faut que le consultant se sente en confiance pour évoquer ces situations de stress, des situations émotionnelles un peu douloureuses aussi peut-être. Et ça, si on n'est pas en confiance, on ne se lâche pas, on ne le fait pas. Et du coup, le praticien en face n'a pas toutes les billes aussi pour aider. Donc, avec tous ces critères-là, vous allez trouver votre naturopathe, Bruno.
Donc, si je rencontre ou si je suis les conseils d'un naturopathe, c'est sur du long terme. C'est quelques mois, voire quelques années, non? Ou puis voir une ou deux fois, ça suffit?
Alors, ça dépend de votre problématique. Personnellement, je n'aime pas mettre le grappin sur les personnes, comme on dit trivialement. Mais voilà, j'aime bien que les gens se sentent libres de revenir ou de ne pas revenir, d'ailleurs. Classiquement, en moyenne, on voit 3 fois dans notre cabinet la personne pour une problématique. 3 fois à raison d'un rendez-vous tous les mois, mois et demi par exemple. Après, il n'y a pas de règle précise, bien sûr, ça peut être plus long, moins de rendez-vous. Ça, c'est le classique. Et après, finalement, la personne va revenir quand elle sent que ben, y a peut-être une autre problématique ou que l'ancienne problématique repointe son nez, elle se dit « j'ai pas envie de retomber aussi bas qu'auparavant » et donc elle revient. Il n'y a pas d'abonnement. C'est bien de se sentir libre et de laisser la personne libre aussi. Donc, le fait d'engager les gens sur la durée, moi, ça m'inquiète un peu. J'aurais pas envie de devenir, par exemple, un gourou, dire bah, tous les mois, je vais voir ma naturopathe qui délivre la parole suprême. J'ai pas très envie qu'on me voie comme ça, franchement. Moi, je préfère que mes consultants se sentent libres. Ils viennent quand ils se le sentent. S'ils ont envie de mettre plus d'un mois à revenir, ils mettent plus d'un mois, tout est OK.
La naturopathie, ça concerne tout le monde, les enfants aussi, les jeunes, les vieux?
Oui, ça concerne tout le monde. Ça peut concerner l'enfant pour des problèmes émotionnels. Ça, c'est le motif le plus fréquent. Ça peut être des problèmes de sommeil, des problèmes digestifs. Évidemment, l'adulte, bon, on y pensera plus facilement. Et oui, ça concerne aussi les seniors. Vraiment, tout le monde peut être concerné par le mieux-être. Il n'y a pas d'âge pour aller mieux ou même pour prévenir. Moi, je me souviens d'une jeune fille de 12 ans qui est arrivée dans mon cabinet par sa maman parce qu'elle voulait absolument avoir les bons conseils pour bien grandir, pour bien dormir, pour bien s'alimenter. Ben, ça, c'est super.
Donc, si on résume, si je veux avoir une bonne vitalité, si je veux me mettre en forme pour continuer sur mon chemin de vie personnelle, c'est un ou une naturopathe qu'il faudrait que j'aille voir pour prévenir et avant de tomber malade.
Exactement. Là, on est vraiment dans la prévention. Nous, on se voit, les naturopathes, comme des éducateurs de santé. Donc, effectivement, avant de tomber malade, bah, c'est quand on sent que ça dérape ou même quand on est en bonne santé, comme je vous disais, pour faire un point. Voilà, est-ce que mon hygiène de vie va me permettre de vieillir en bonne santé? Après, ainsi aussi va la pensée occidentale. On n'est pas trop dans la prévention en Occident. Ça, c'est plutôt quelque chose côté Orient, par exemple avec nos amis chinois. On sait qu'eux sont beaucoup dans la prévention. Ben là, on peut avoir un problème de santé et décider ben, de mettre toutes les chances de son côté, en plus de la médecine allopathique, se dire « je vais consulter un naturopathe pour optimiser mon terrain ». Donc, vous vous souvenez, le terreau dans la plante. Donc, ça peut être une solution aussi. Ce n'est jamais la naturopathie contre la médecine allopathique, c'est toujours de la complémentarité. On est là vraiment pour soutenir, en fait. On sait combien les médecins aujourd'hui sont hyper bookés, débordés. Et, on est vraiment là en complémentarité et pour soutenir.
Je rappelle donc, il y a 5 piliers sur lesquels il faut faire attention.
Oui. Alors, est-ce que vous avez retenu, Bruno?
L'eau.
Oui.
Attention à ce que je bois.
Mm-hmm.
Dormir. Oui. Alors après, encore une fois, dormir, ça dépend de chaque personne. Il y a des gros dormeurs, des petits dormeurs.
Ça, on est tous différents. Moi, je connais quelqu'un qui dort 4 heures et qui est en pleine forme et je l'envie. Et puis, quelqu'un comme moi, par exemple, qui a besoin de 8 bonnes heures, voire 9, pour être vraiment en forme sur la journée. On est tous différents. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en vieillissant, on dort moins et moins bien. Bon, c'est OK.
Exercice physique?
Oui.
Alimentation?
Oui.
Et j'ai oublié le quatrième.
La gestion du stress?
Et la gestion du stress. Donc voilà, et si je tombe malade, c'est que je n'ai pas fait attention à ces 5 points-là, en fait.
Voilà, c'est qu'il y a eu une défaillance. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est le principe de l'encrassage. Hein, c'est que c'est petit à petit, et puis à un moment, c'est encrassé, et la machine ne tourne plus trop rond. Et en reprenant les choses dans l'ordre, ça se passe beaucoup mieux.
Alexia, merci. J'aimerais que dans une prochaine rencontre, on puisse parler justement de chacun de ces 5 points.
Avec joie.
Et de savoir comment je peux améliorer l'eau, le stress, etc. avec des petits conseils. Ça vous dit ?
Ah c'est super.
Eh bien, merci. Une prochaine rencontre, alors.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir, Bruno.
Cazères et autour de Cazères, on écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.